Bien, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans cette salle que, ou plus exactement dans ce lieu que nous apprécions particulièrement aujourd'hui à la fois pour son chauffage et pour son, son système Internet. Je profite de l'occasion aussi pour remercier notre caméraman donc, qui permet de suivre les cours non seulement en audio mais en vidéo hein, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu venir jusqu'ici. Effectivement, il fallait pratiquement risquer sa vie pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Ce qui me fait dire d'ailleurs que les semaines passent et semblent se ressembler puisque encore une fois nous nous étions quittés dans la neige, nous nous retrouvons dans la neige. Et d'autre part, la semaine dernière, je vous rappelais comment Confucius se trouve instrumentalisé dans la Chine actuelle. Et donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être, aujourd'hui est un grand jour puisque nous sommes à la veille de la remise du prix Nobel de la paix donc à Liu Xiaobo, qui ne peut pas aller chercher son prix pour la bonne raison qu'il est en prison. Donc, la Chine a imaginé, puisque nous sommes dans l'ère de l'invention, donc d'inventer une sorte de prix Nobel, de prix anti-Nobel, on pourrait dire, en inventant donc son propre prix qui s'appelle, je vous le donne en mille, le prix Confucius, et qui est donc attribué aujourd'hui. Il est attribué donc à Monsieur Lien Zhan, qui est un ancien ministre donc du parti nationaliste Kuomintang, donc si à Taïwan, et qui représente donc pour la Chine évidemment un symbole de paix dans la mesure où il a beaucoup facilité le rapprochement donc entre les deux rives. Alors donc la semaine dernière, nous avons repris le fil de ce que nous pourrions appeler la généalogie de Confucius philosophe, dont les origines remontent à la médiation jésuite au XVIIe-XVIIIe siècle et qui s'est trouvée mise en cause par la philosophie des professeurs, si on peut l'appeler ainsi, développée dans le cadre universitaire de l'Europe du XIXe siècle. On a vu comment on est passé d'un paradoxe à l'autre, du paradoxe d'un Confucius sécularisé et présenté comme un philosophe rationaliste par les missionnaires jésuites, on est passé à cet autre paradoxe, à savoir que, alors qu'au XIXe siècle, la Chine devient de mieux en mieux connue grâce à la science qui lui est dévolue, c'est-à-dire la sinologie, cette Chine se trouve du coup rejetée hors du champ de la philosophie, qui est désormais définie par les professionnels de ce qui est devenu une discipline à part entière du savoir universitaire, donc définie en termes de rigueur scientifique, de capacité d'abstraction, de théorisation et de systématicité. C'est donc de cette définition de la philosophie qu'hérite le magistère philosophique européen du début du XXe siècle et à laquelle sont sommés de répondre les intellectuels chinois modernes qui, eux, comme on va le voir, n'ont plus grand-chose à voir avec les lettrés de la Chine impériale, lesquels étaient formés dès le plus jeune âge à l'étude des classiques confucéens, indispensable pour se présenter au fameux concours mandarino. Et donc, ce passage, ou plus exactement cette mutation des lettrés de la Chine classique à la figure des intellectuels modernes s'est faite de manière très rapide. Elle s'est jouée véritablement en quelques décennies. Je rappelais la dernière fois que ces concours mandarinaux ont été abolis en 1905, donc au tout début du XXe siècle, il y a exactement 100 ans, enfin ou presque, pour laisser place à une formation à l'occidentale dans un cadre nouveau, à savoir celui des universités, également de type occidental, ce qui provoque une première grande rupture de la tradition classique chinoise au nom de la modernité occidentale. Rupture qui va évidemment éclater donc au grand jour avec le mouvement du 4 mai 1919 et qui ne fera que se creuser de plus en plus au fil des mouvements, soubresauts et révolutions qui ont émaillé l'histoire chinoise du siècle dernier. C'est donc au début du siècle dernier que la catégorie de philosophie en chinois Zhexue, qui a été donc importé en Chine grâce à la médiation japonaise, donc ce mot se prononce tetsugaku en japonais, donc cette nouvelle catégorie de philosophie s'implante en Chine avec l'invention d'une nouvelle entité, à savoir donc la philosophie chinoise, dont il s'agit Zhongguo Zhexue Shi, dont il s'agit de définir les caractéristiques et de retracer l'histoire dans des termes qui sont en fait préétablis par la philosophie européenne du XIXe siècle. Alors, nous avons vu la semaine dernière comment, dès l'introduction de ces catégories nouvelles en Chine, s'est instauré dans le domaine philosophique un dialogue privilégié et qui va devenir un dialogue permanent entre les élites chinoises et le monde universitaire américain. Alors, je rappelle que les toutes premières histoires de la philosophie chinoise, en chinois, qui ont dominé la première moitié du XXe siècle, sont dues à deux grands intellectuels qui se trouvent avoir été tous les deux formés dans leurs études doctorales à l'Université Columbia de New York par le philosophe pragmatiste américain John Dewey. Alors, il s'agit premièrement de Hu Shi, donc qui est l'auteur de cette histoire de la philosophie chinoise dans ses grandes lignes, hein, puisque c'est le sens exact de ce titre, Zhongguo Zhexue Shi Da Gang, qui est paru en 1918, c'est-à-dire donc à la veille du mouvement du 4 mai 1919, dont je rappelais la dernière fois que Hu Shi a été véritablement une figure de proue. Et Hu Shi, donc je le rappelle aussi, venait d'obtenir son doctorat à Columbia, donc sous la direction de Dewey en 1917, avec une thèse intitulée The Development of the Logical Method in Ancient China, c'est-à-dire donc le développement de la méthode logique dans la Chine ancienne. Alors, d'où l'importance de ce mot logique, de ce qualificatif de logique pour Hu Shi, qui se traduit donc en chinois de manière purement phonétique par le mot luoji que vous avez ici. Donc là, vous avez une des techniques de traduction des termes importés du vocabulaire occidental, très souvent donc par l'intermédiaire donc justement de cette médiation japonaise. Mais ici donc vous avez une technique qui consiste à transcrire de manière phonétique donc des mots occidentaux dans leur prononciation anglaise. Donc logic donne luoji en chinois. Alors pendant deux années pleines, et c'est à ce moment-là que s'enracine donc justement ce dialogue sino-américain. À partir de mai 1919, c'est-à-dire juste au moment où commence le mouvement étudiant, jusqu'à juillet 1921, Dewey, donc le professeur de Ruoshi, fait une tournée en Chine de quelques 70 conférences. C'est quelqu'un de tout à fait infatigable. Donc 70 conférences en deux ans avec son ancien étudiant Ruoshi comme interprète. Et la chose évidemment croustillante pour nous, c'est de savoir que Dewey s'est même vu décerner à ce titre donc le titre honorifique de second Confucius. Alors, le séjour en Chine de Dewey coïncide avec celui d'un autre grand nom de l'intelligentsia européenne de l'époque, à savoir donc Bertrand Russell, le fameux mathématicien et philosophe britannique, qui lui donc séjourne en Chine un peu moins longtemps puisqu'il il arrive seulement en octobre 1920. Et reste lui aussi jusqu'à juillet 1921, c'est-à-dire qu'il quitte la Chine en même temps que Dewey. Il est intéressant là aussi de signaler au passage que Russell a livré un témoignage à chaud sur son séjour en Chine dans un livre paru dès 1922, c'est-à-dire dès son retour donc en Europe, qui s'intitule, et ça c'est tout à fait significatif, The Problem of China, c'est-à-dire le problème de la Chine. À l'époque, la Chine n'est qu'un problème. Alors, le dialogue sino-américain est véritablement incarné par Ruoshi, puisque il est ensuite nommé ambassadeur de Chine aux États-Unis pendant 4 ans, pendant la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire entre 1938 et 1942. Et après la défaite de Chiang Kai-shek donc face aux communistes en 1949, Ruoshi trouve refuge aux États-Unis, où il reste jusqu'en 1958. Et c'est seulement donc 11 ans donc après la prise du pouvoir par les communistes en Chine continentale que Ruoshi accepte une invitation donc émanant de Taïwan pour diriger la prestigieuse Academia Sinica. C'est donc à Taïwan qu'il meurt d'une crise cardiaque donc en 1962. Alors, donc Ruoshi, c'est véritablement, vous le verrez dans un instant, l'incarnation justement de ce début de dialogue sino-américain. L'autre grand disciple chinois donc de John Dewey, c'est Feng Yolan, également auteur d'une histoire de la philosophie chinoise. Là, il s'agit d'un véritable monument qui est paru au début des années 1930, le deuxième volume paraissant en 1934. Et lui aussi donc avait obtenu son doctorat à Columbia sous la direction de Dewey, mais quelques années plus tard que son aîné, en 1925, avec une thèse qui s'intitule « A Comparative Study of Life Ideals », c'est-à-dire donc une étude comparée des idéaux de vie. Donc là, nous avons en fait la thèse de quelqu'un qui se veut véritablement philosophe et qui parle donc de la philosophie de la vie. Alors, au moment où se termine le conflit sino-japonais en 1945, qui va, comme vous le savez, se muer en guerre civile entre le parti nationaliste, le Kuomintang, donc, qui est encore aux affaires actuellement à Taïwan, donc le Kuomintang mené par Chiang Kai-shek à l'époque, et en face, le parti communiste, le Kongchantang, donc mené par Mao Zedong. Donc à ce moment-là, en 1945, Feng Yolan, lui aussi, choisit d'aller aux États-Unis, où il enseigne pendant quelques années à l'université de Pennsylvanie, puis à l'université de Hawaï. Mais contrairement à Hu Shi, il choisit de retourner donc en Chine continentale, qui est entre-temps donc devenue communiste. Et c'est ce choix que Feng Yolan n'a jamais renié, qui le contraint cependant à réécrire de fond en comble son histoire de la philosophie chinoise selon des schémas marxistes-léninistes. Donc là, vous avez une refonte de son Zhongguo Zheshue Shi, version marxiste. Alors, il me paraissait intéressant de vous montrer quelques photos, pas simplement d'un point de vue anecdotique, mais pour vous montrer un petit peu justement cette hésitation des intellectuels chinois qui se traduit déjà sur le mode vestimentaire. Vous allez voir que selon les circonstances, ces intellectuels chinois du début du XXe siècle portent tantôt la tunique longue, c'est-à-dire ce qu'on appelle le changpao, donc en chinois, cette tunique longue héritée donc de l'époque manchoue. Tantôt, ils portent donc le costume trois pièces à l'occidental. Vous allez voir, c'est tout à fait frappant. Alors, la photo commence par une évocation de notre philosophe national, donc Maurice Merleau-Ponty, donc dont je vais reparler à l'instant. Donc vous avez cette très belle photo de Merleau-Ponty. Vous avez ensuite donc le l'aristocrate britannique, donc Lord Russell, donc qui est un véritable aristocrate, donc qui portait le titre de comte, qui est passé évidemment par les public schools, par Cambridge, etc. Donc avec sa pipe. Et en contraste, tout à fait intéressant, donc le philosophe américain John Dewey, qui lui en fait est tout à fait d'origine roturière, qui est même d'origine assez simple. Et c'est donc une photo de Dewey, donc au moment où nos deux étudiants chinois l'ont connu. Donc Dewey dans sa bibliothèque. Clin d'œil à notre peintre national Matisse. Vous avez une esquisse de Dewey par Matisse qui date de 1931. Alors, je dirais que ce n'est pas exactement ce que Matisse a réussi de mieux, mais c'est quand même intéressant de savoir que nous avons un portrait. Vous avez ici donc. Si c'était possible d'avoir, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui se passe en arrière-fond de ce portrait. L'auteur de ce portrait importe peu. Il s'agit d'un certain monsieur Edwin Child, qui date de 1929. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que vous voyez en arrière-fond ici, qui me semble furieusement ressembler donc à une statuette représentant Confucius. Là, nous sommes en 1929, donc Dewey est revenu de Chine, et je pense que ça, c'est un de ces genres de souvenirs très encombrants que les Chinois aiment offrir donc à leurs hôtes de passage. Et je pense que c'est aussi un petit peu un clin d'œil à ce titre honorifique de second Confucius qu'on lui a attribué pendant qu'il était en Chine, justement. Ensuite, vous avez donc, là commence justement cette espèce de valse vestimentaire, si je puis dire. Vous avez une photo de jeunesse de Ruoshi, donc en costume chinois, vous voyez donc le col à la façon manchou et le boutonnage aussi à la mode manchou, qui date donc de 1925. Alors, deux ans plus tard, 1927, le même Ruoshi, donc en costume trois pièces, donc costume occidental. C'est une photo qui a été vraisemblablement prise aux États-Unis. Le même Ruoshi, donc, au moment où il est donc. Il vient de justement de remplir ses fonctions d'ambassadeur donc de Chine aux États-Unis. Là, nous voyons quelqu'un qui a pris de la bouteille et qui donc porte donc ce costume à l'occidental. Alors là, je pense que vous avez du mal à voir ce qui se passe donc sur cette affiche. Il s'agit de l'annonce d'une série de six conférences que Ruoshi a données dans une de ses alma mater américaines, à savoir l'université Cornell. Parce que avant de faire un doctorat en philosophie à Columbia, Ruoshi donc a été envoyé dès 1910 à l'université Cornell pour étudier l'agronomie. Et je pense qu'il s'est quand même assez rapidement rendu compte qu'il y avait une erreur d'aiguillage, parce qu'après, il est passé de l'agronomie à la philosophie. Mais donc, fidèle à son alma mater, donc, il a accepté en 1945-46, nous sommes juste au lendemain de la guerre, donc de faire une série de conférences à Cornell qui s'intitule « Intellectual Renaissance in Modern China », c'est-à-dire donc la renaissance intellectuelle dans la Chine moderne. Donc, si j'ose dire, c'est tout un programme. Et la première conférence s'appelle justement « Revival of Chinese Thought and Learning », c'est-à-dire donc la renaissance, la résurrection donc de la pensée et de l'érudition chinoise. Alors, si nous continuons, là nous voyons Ruoshi donc à Taïwan en 1958 en compagnie donc du généralissime Chiang Kai-shek. Là nous sommes dans un contexte extrêmement officiel où Ruoshi donc vraisemblablement reçoit le généralissime donc à l'Academia Sinica. Alors maintenant, nous passons donc à une photo de Feng Yolan. Alors là, vous voyez que nous avons affaire à une personnalité extrêmement différente. Autant Ruoshi est quelqu'un qui a une belle prestance, c'est un séducteur, et d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur sa vie sentimentale qui apparemment a été extrêmement bien remplie. Feng Yolan, c'est vraiment donc l'érudit dans toutes, enfin vraiment pur et dur, on pourrait dire. Alors là, vous le voyez donc dans un costume à l'occidental, mais c'est une photo vraisemblablement professionnelle. Mais alors, quand il est chez lui, là nous le voyons donc en 1935 avec sa famille, vous voyez donc il est en changpao, c'est-à-dire donc dans cette tunique à la mode chinoise, avec sa famille, donc sa femme ici, sa mère et ses quatre enfants. Donc la fille aînée porte également donc la version féminine donc de cette tunique qu'on appelle le qipao. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir donc aussi les photos de classe. Alors nous avons ici donc une photo qui date de 1918. Alors, la photo est de très mauvaise qualité. Hein, vous avez donc Feng Yolan qui est ici. Hein, et donc les grands recteurs justement de l'université de Pékin, hein, qui est de création toute fraîche à l'époque. Mais vous remarquerez donc qu'ils portent tous donc la tunique traditionnelle. Alors, si vous prenez donc quasiment les mêmes 3 ans plus tard, 1921, là vous avez un groupe d'étudiants, hein, au milieu desquels je n'arrive plus à retrouver Feng Yolan, mais il est dedans, je crois qu'il est là. Là, ce sont donc les étudiants qui ont été sélectionnés donc pour partir aux États-Unis. Donc ils ont le costume ad hoc, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ils se sont tous équipés donc d'un costume à l'occidental, hein, et certains même prennent une pose très occidentale. Voyez. En 1948, alors là c'est mélangé. Donc là, nous sommes donc au lendemain de la guerre, à la veille de la prise du pouvoir par les communistes. Alors là, vous avez un petit peu de tout. Hein. Alors donc, vous avez semble-t-il, la vieille génération qui préfère rester donc en tunique longue, pendant que les plus jeunes portent le costume à l'occidental. Donc là, vous avez cette espèce de valse hésitation donc vestimentaire qui me paraissait tout à fait caractéristique de l'époque. Bien, juste une dernière photo donc de Feng Yolan donc à l'âge de 90 ans. Hein, cette photo date de 1985. Et alors là, vous voyez que Feng Yolan porte le costume Mao. Hein, donc il a choisi, contrairement à Rouche, donc de rester donc en Chine populaire. Et là donc il est encore en train de travailler à la énième version donc de son histoire de la philosophie chinoise, hein, parce qu'il a réécrite plusieurs fois. Hein, je veux dire, bon, il a réécrite à la sauce marxiste-léniniste, mais ensuite il est revenu à une version plus critique, etc. Donc on pourrait faire une histoire de la philosophie chinoise de Feng Yolan. Bien. Alors, donc, j'arrête là pour le moment cette galerie de photos, mais je pense que ça vous illustre bien un petit peu l'atmosphère de cette époque où nous avons des intellectuels qui sont placés devant des choix. Bon, alors évidemment, nous avons vu les choses de manière un petit peu anecdotique, enfin devant des choix vestimentaires, mais surtout devant des choix politiques et bien sûr, en ce qui nous concerne, des choix philosophiques. Alors, je reprends donc le fil donc de ce que je disais la dernière fois, puisque nous en arrivons maintenant à ce monde, à ce second moment de mondialisation, puisque il s'agit du monde issu de la Seconde Guerre mondiale, que Merleau-Ponty décrivait comme dans ses cours au Collège de France. Il a décrit ce monde comme un chaos et un monde humain illisible. Mais c'est précisément du fait qu'il est issu d'un conflit mondial que ce monde ouvre une nouvelle ère de mondialisation, laquelle a eu son effet, comme on l'a vu, sur le destin contemporain de Confucius. Alors, nous commencions la dernière fois à examiner la manière dont Merleau-Ponty, dans le volume collectif qu'il a fait paraître en 1956, Les philosophes célèbres, dont Merleau-Ponty a choisi de consacrer la toute première partie du volume à l'Orient et la philosophie. Et donc, il a fait précéder cette première partie d'un texte liminaire qu'il a rédigé lui-même et qui commence ainsi. Alors, je reprends rapidement donc la citation que je vous lisais la dernière fois, ne serait-ce que par plaisir, justement, de lire le beau style de Merleau-Ponty. Cette immense littérature pensante, qui exigerait à elle seule un volume, fait-elle vraiment partie de la philosophie ? Est-il possible de la confronter avec ce que l'Occident a appelé de ce nom ? La vérité n'y est pas comprise comme l'horizon d'une série indéfinie de recherches, ni comme conquête et possession intellectuelle de l'être. C'est plutôt un trésor épars dans la vie humaine avant toute philosophie et indivis entre les doctrines. La pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes. Là, pendant ce temps-là, mon ordinateur en profite pour s'éteindre, pourvu que j'arrive à le rallumer. Donc, la pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes, ni même d'opter entre elles, et encore moins de les dépasser vraiment en formant une nouvelle idée de l'ensemble. Elle se donne comme commentaire et syncrétisme, écho et conciliation. L'ancien et le nouveau, les doctrines opposées font bloc et le lecteur profane ne voit pas qu'il y ait là de l'acquis ni du révolu. Il se sent dans un monde magique où rien n'est jamais fini, où les pensées mortes persistent et où celles qu'on croyait incompatibles se mélangent. Alors, donc, évidemment, Merleau-Ponty s'empresse de préciser, il faut faire ici la part de notre ignorance. Et c'est là que, donc, qu'il fait appel à l'autorité de von Jolan en ce qui concerne donc la pensée de la Chine, tout comme, je le rappelais la dernière fois, tout comme Hegel l'avait fait en son temps avec le sinologue donc Abel Rémusa. Alors, von Jolan est dans ce texte cité par Merleau-Ponty dans une traduction française parue en 1952, c'est-à-dire donc tout récemment, au moment où écrit Merleau-Ponty. Il s'agit donc d'une traduction française d'un ouvrage qui s'intitule en anglais « A Short History of Chinese Philosophy », c'est-à-dire donc une histoire courte ou raccourcie, si vous voulez, de la philosophie chinoise, hein, qui a été donc, il s'agit en fait d'une excusez-moi, mais alors là mon ordinateur me joue vraiment des tours. J'ai besoin de ce glossaire. Donc, il s'agit donc de cette version abrégée de l'histoire de la philosophie chinoise, version abrégée qui a été rédigée directement en anglais par von Jolan lui-même, et qui est parue donc à destination d'un public anglophone, occidental, donc à New York en 1948. Donc vous avez donc le titre en anglais ici. Alors, dès les premières phrases du chapitre introductif de cet abrégé de la philosophie chinoise, ce chapitre introductif est d'ailleurs intitulé The Spirit of Chinese Philosophy, hein, l'esprit de la philosophie chinoise. Donc, dans ce chapitre introductif, von Jolan parle sans embâge de la philosophie chinoise, c'est-à-dire qu'il considère sans embâge et sans complexe que la philosophie chinoise existe, hein, et il considère même les quatre livres, les Sishou du corpus canonique confucéen, dont font partie donc les entretiens de Confucius, Il considère donc ce corpus comme de la philosophie. Et von Jolan poursuit en disant ceci: For my part, what I call philosophy is systematic, reflective thinking on life. A philosopher must philosophize. That is to say, he must think reflectively on life and then express his thoughts systematically. Donc, pour ma part, ce que j'appelle philosophie, c'est donc une forme de pensée systématique et réflexive sur la vie. Donc, un philosophe a pour devoir de philosopher, c'est-à-dire il a pour devoir de penser ou de réfléchir, de penser de manière réflexive sur la vie et ensuite d'exprimer ses pensées de manière systématique. Donc, nous voyons ici que von Jolan définit la philosophie comme donc de la pensée systématique et réflexive sur la vie. Alors, nous avions vu que le mot-clé pour Hu Shi, c'était la méthode logique, donc luoji en chinois. Pour von Jolan, les mots-clés qu'il utilise en anglais pour donner sa définition de la philosophie sont donc systematic et reflective. Et dans la version chinoise de son histoire de la philosophie chinoise, donc dans son Zhongguo Zheshue Shi, ces deux termes correspondent au terme chinois que vous avez ici, xi tong et zi jue. Alors, xi tong, la graphie donc de ce terme composé est tout à fait intéressant dans la mesure où vous retrouvez donc dans les deux caractères ce graphème qui est le radical de la soie, du fil de soie que vous avez ici et que vous retrouvez ici en partie radicale, donc sur la gauche du deuxième caractère. Donc cette notion de systématicité donc en chinois se rend par deux termes qui évoquent donc un fil continu, c'est-à-dire que ça désigne donc un ensemble qui tient ensemble, parce qu'il est tissé ensemble et il tient justement par cet unique fil qui traverse tout le système justement. Alors le deuxième terme, tron, est un terme qui vient du vocabulaire traditionnel et qui désigne tout particulièrement donc le fil de la succession dynastique. C'est un terme qui a dans le vocabulaire chinois classique une connotation fortement politique. Mais donc là vous avez la formation donc dans la langue chinoise moderne qui est très souvent composée justement de binômes, alors que la langue classique est très souvent composée justement de caractères uniques, de mots uniques. La langue moderne redouble très souvent. Donc là vous avez un terme tout à fait intéressant par sa graphie. Et le deuxième terme, donc le terme zijue, qui est composé là aussi de deux éléments. Donc zi, c'est justement soi-même ou de soi-même. Donc ça indique justement cette espèce de retour sur soi. Et jue, c'est aussi un terme qui est emprunté au vocabulaire classique. C'est un terme qui a une très longue histoire, qui signifie à l'origine donc éveillé ou s'éveiller, et qui a été très largement exploité par le philosophe de l'Antiquité, donc Zhuangzi, donc un penseur du IVe siècle avant l'ère chrétienne, et ensuite qui a été repris, on peut s'en douter justement, dans toute l'histoire du bouddhisme, hein, puisque le jue, ça désigne donc l'éveil, au sens l'éveil ou l'illumination, donc au sens bouddhique. Donc vous avez dans ce terme tue donc l'évocation justement de certains états de conscience. Donc zi jue, c'est donc cette conscience de soi ou donc cette réflexivité sur laquelle donc Feng Yolan insiste tellement pour définir la philosophie. Donc en conséquence, dans son effort de définir une tradition philosophique chinoise, Feng Yolan ne retient que ce qui, à ses yeux, peut aller dans le sens de la réflexivité et de la systématicité. Donc, il pratique une sorte de pêche, si j'ose m'exprimer ainsi, donc de pêche sélective. Et c'est au nom justement de ces deux critères qu'il rejette hors du champ de la philosophie chinoise certains pans de la tradition intellectuelle chinoise. Par exemple, il considère que la pensée de l'époque Han, c'est-à-dire donc du début de l'ère impériale, la dynastie Han, donc qui a correspondu grosso modo, si vous voulez, à l'histoire de la Rome antique, du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, cette époque Han, selon Feng Yolan, n'est pas assez systématique. Et de même, il considère que la dernière époque de la tradition chinoise, c'est-à-dire donc l'époque Manchu, la dynastie Qing, donc qui a duré du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, il considère que cette époque de pensée n'est pas assez réflexive. Alors, c'est justement de cette introduction et plus précisément d'une section qui concerne la façon dont les philosophes chinois s'exprimaient que Merleau-Ponty choisit donc d'extraire quelques citations de Feng Yolan. Alors Merleau-Ponty donc cite Feng Yolan qui dit ceci: dans certains écrits philosophiques tels que ceux de Mencius, en chinois donc Mengzi, là aussi un penseur du IVe siècle avant l'ère chrétienne, ou de Xunzi, donc un de ses successeurs au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, dans certains écrits philosophiques tels que ceux-là de Mengzi ou de Xunzi, on trouve un raisonnement et des arguments systématiques. Donc là, on retrouve ce mot magique systématique. Mais comparés aux écrits philosophiques de l'Occident, ils ne sont pas encore assez articulés. Ça, c'est Feng Yolan qui parle. C'est un fait que les philosophes chinois avaient l'habitude de s'exprimer sous forme d'aphorismes, d'apophthegmes ou d'allusions et d'apologues. Alors ça, notons au passage, ça c'est moi qui parle, c'est éminemment le cas des entretiens de Confucius. Donc là, il y a véritablement un problème. Alors, Feng Yolan poursuit en disant « Les paroles et les écrits des philosophes chinois sont si inarticulés que leur puissance de suggestion est sans limite. » Bon, alors donc là, vous voyez que Feng Yolan se croit obligé de prendre un ton très apologétique pour rendre compte de la concision, du manque de suite et d'articulation dans les idées qui caractérisent, selon lui, les textes chinois qu'il a désignés lui-même comme philosophiques. Puisque, comparés aux écrits de la philosophie occidentale, ils sont toujours trop allusifs, trop aphoristiques, trop métaphorique, bref, pas assez systématique. Alors, comme je viens de le dire, les entretiens avec justement leur forme extrêmement fragmentaire, posent particulièrement problème à cet égard. Et nous allons justement avoir à revenir sur le problème que soulève cette exigence de cohérence et de systématicité imposée par les intellectuels chinois modernes à un texte ancien dont la facture même semble totalement aléatoire. Ça, c'est un des problèmes fondamentaux, justement, de la lecture contemporaine des entretiens. Alors, je finis pour l'instant sur cet échange, disons indirect, entre Feng Yolan et Merleau-Ponty. Alors, donc, après avoir fini de citer Feng Yolan comme autorité sur la philosophie chinoise, Merleau-Ponty enchaîne donc en faisant mine de faire écho à cet embarras exprimé par Feng Yolan. Merleau-Ponty dit ceci: on a le sentiment que les philosophes chinois n'entendent pas, comme ceux d'Occident, l'idée même de comprendre ou de connaître, qu'ils ne se proposent pas la genèse intellectuelle de l'objet, qu'ils ne cherchent pas à le saisir. C'est lui qui souligne, mais seulement à l'évoquer dans sa perfection primordiale. Et c'est pourquoi ils suggèrent. C'est pourquoi on ne peut distinguer chez eux le commentaire et ce qui est commenté, l'enveloppant et l'enveloppé, le signifiant et le signifié. C'est pourquoi chez eux, c'est-à-dire chez les philosophes chinois, le concept est tout autant allusion à l'aphorisme que l'aphorisme allusion au concept. La Chine et l'Inde ne sont pas en pleine possession de ce qu'elles disent. Il leur manque, pour avoir des philosophies, de chercher à se saisir, là aussi c'est lui qui souligne, de se saisir elles-mêmes et tout le reste. Alors, Merleau-Ponty, là aussi, s'empresse de préciser, donc, ces remarques, aujourd'hui banales, ne tranchent pourtant pas la question. Elles nous viennent de Hegel. Hegel et ceux qui le suivent ne reconnaissent à la pensée orientale de dignité philosophique qu'en la traitant comme une lointaine approximation du concept. Notre idée du savoir est si exigeante qu'elle met tout autre type de pensée dans l'alternative de se soumettre comme première esquisse du concept ou de se disqualifier comme irrationnel. Donc là, Merleau-Ponty, qui est quelqu'un de très fin, a bien compris justement que Feng Yolan est piégé en quelque sorte par une vision hegelienne de la philosophie. Et de toute évidence, Merleau-Ponty a bien vu que c'est un questionnement de type hegelien que Feng Yolan cherche à fournir des réponses. Alors, Merleau-Ponty pose la question: comment, dans cette ontologie et dans ce temps inarticulé, découvrir un profil, un devenir, une histoire? Ça, c'est la question de Merleau-Ponty. Et indirectement, Feng Yolan a tenté de répondre, comme bien d'autres intellectuels chinois après lui, il a tenté de faire admettre, en même temps que l'existence d'une philosophie chinoise, celle d'une histoire de cette philosophie. Alors, bien sûr, l'ironie de la situation, c'est que c'est précisément au moment où un philosophe européen comme Merleau-Ponty cherche une sortie de la philosophie conçue comme système, qu'un philosophe chinois comme Feng Yolan s'évertue de son côté à faire entrer la tradition chinoise dans la systématicité. Alors, il suffit justement de voir les considérations de Merleau-Ponty dans son avant-propos général à ce volume collectif paru en 1956, dont je parlais tout à l'heure, donc « Les philosophes célèbres ». Alors, Merleau-Ponty dit ceci donc dans l'avant-propos général. On n'entre pas au panthéon des philosophes pour s'être appliqué à n'avoir que des pensées éternelles. Et l'accent de vérité ne vibre jamais si longtemps que quand l'auteur interpelle sa vie. Donc là, nous avons un écho justement de cet intérêt des philosophes chinois pour la philosophie de la vie. Merleau-Ponty continue ainsi : les philosophies du passé ne survivent pas dans leur esprit seulement comme moment d'un système final. Leur accès à l'intemporel n'est pas l'entrée au musée. Elles durent avec leur vérité et leur folie comme entreprise totale, où elles ne durent pas du tout. Hegel lui-même, cette tête qui a voulu contenir l'être, vit aujourd'hui et nous donne à penser non seulement par ses profondeurs, mais aussi par ses manies et ses tics. Les tics de Hegel, c'est assez amusant à imaginer. Je continue sur Merleau-Ponty. Il n'y a pas une philosophie qui contienne toutes les philosophies. La philosophie tout entière est, à certains moments, en chacune. Pour reprendre le mot fameux, son centre est partout et sa circonférence nulle part. Alors, donc, ce texte, le texte de cet avant-propos, ainsi d'ailleurs que les textes liminaires que Merleau-Ponty a rédigés à toutes les parties des philosophes célèbres, hein, dont justement ce texte sur l'Orient et la philosophie, ont été regroupés précisément sous le titre « Partout et nulle part » dans un recueil intitulé « Éloge de la philosophie et autres essais hein, » que vous trouverez commodément dans ce livre de poche édité chez Gallimard. Alors, c'est aussi dans ce recueil que se trouve le texte de la leçon inaugurale de Merleau-Ponty au Collège de France en 1952, avec donc cette fameuse phrase qui nous est restée comme une sorte de devise, et je ne résiste pas évidemment à l'envie de vous la redire, « Ce que le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner à ses auditeurs, que vous êtes, ce ne sont pas des vérités acquises, c'est l'idée d'une recherche libre. » Alors, pour revenir un dernier instant sur Fongyolan, dans le dernier chapitre de cet abrégé en anglais donc de son histoire de la philosophie chinoise, donc A Short History of Chinese Philosophy, donc dans ce chapitre de conclusion qui est intitulé Chinese Philosophy in the Modern World, c'est-à-dire la philosophie chinoise dans le monde moderne, Fongyolan explicite la perspective dans laquelle il a entrepris son histoire de la philosophie chinoise. C'est, dit-il, pour montrer, voire démontrer, que la tradition intellectuelle chinoise est digne d'être considérée comme philosophie. Ce qui lui permet de poser la question, en anglais, « What will Chinese philosophy contribute to the future philosophy of the world ?» C'est-à-dire quelle sera la contribution de la philosophie chinoise à l'avenir de la philosophie mondiale. Et il faut croire que Fongyolan était véritablement obsédé par cette question dans les années 1950, puisque il y a un autre texte de lui qui date de 1951, également en anglais, qui s'intitule « Chinese Philosophy and its Possible Contribution to a Universal Philosophy », c'est-à-dire donc la philosophie chinoise et son éventuelle contribution ou la possibilité de sa contribution à la philosophie universelle. Donc, vous voyez là que ce philosophe chinois du XXe siècle non seulement n'a aucun doute sur l'existence d'une philosophie chinoise qui a une très longue histoire, qu'il s'est appliqué à retracer, mais en plus, il revendique donc une participation donc de cette philosophie chinoise à la philosophie universelle. Et de la même façon, donc son collègue, enfin son condisciple, Hu Shi, dans le préambule à son histoire de la philosophie chinoise prise dans ses grandes lignes, Hu Shi, lui aussi, présente donc un schéma. Alors là, vous allez voir que nous sommes véritablement dans quelque chose de tout à fait... si j'arrive à retrouver ce... Oui, j'ai quelques ennuis. Voilà, ici. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer donc, ce schéma. Alors, évidemment, tout est en chinois, hein, mais vous pouvez percevoir même de loin le binarisme, hein, et la symétrie donc, du schéma en question. Hein. Alors, vous avez donc en titre... Hein, alors le schéma donc des systèmes philosophies mondiales. Donc là vous retrouvez donc ce terme xi tong inversé, donc le tong xi tru, c'est-à-dire donc une sorte de schéma donc de ces systèmes. Alors vous avez donc d'un côté donc du binarisme tong, c'est-à-dire donc l'est, et de l'autre côté du binarisme xi, c'est-à-dire l'ouest. Alors, du côté est, c'est-à-dire oriental, vous avez donc la Chine, Zhongguo ici, et l'Inde, Yingdu. Et du côté ouest, du côté occidental, vous avez donc Youtai, c'est-à-dire donc la pensée hébraïque, hein, et Shila, hein, c'est-à-dire donc la Grèce. Hein. Bon, alors donc ensuite, ces deux grandes tendances se combinent de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez donc le fil de la tradition chinoise qui commence dans le Kutai, c'est-à-dire dans l'Antiquité, hein, qui se poursuit. Donc, à l'époque médiévale, hein, qui se désigne en chinois par les six dynasties époque Tang, hein, et c'est à ce moment-là que l'Inde, la pauvre, rejoint donc la Chine. Hein, je suppose qu'il y a là une allusion au bouddhisme, hein, c'est-à-dire le bouddhisme vient de l'Inde, et c'est à ce moment-là que l'Inde donc converge avec la Chine, selon Hu Shi. Bon, et ensuite donc le fil chinois continue jusqu'à Qin Shi, c'est-à-dire jusqu'à la modernité, en passant par les dynasties Song Yuan, c'est-à-dire mongole, Ming et Qing, c'est-à-dire la dynastie Manchu. Bon, alors vous avez un schéma donc en miroir, hein, puisque le vis-à-vis en miroir est tellement à la mode. Hein, alors maintenant vous comprendrez d'où il vient. Donc vous avez en miroir donc la Grèce, hein, donc pour l'époque antique, qui continue sur l'Oma, c'est-à-dire Rome, hein, et c'est selon le schéma de Rouche, si je comprends bien, c'est donc sous la Rome antique que Youtai, c'est-à-dire donc la pensée hébraïque, rejoint donc le fil gréco-romain. qui se continue ensuite par le Hōjō Zhōngu, c'est-à-dire donc le Moyen-Âge européen, et qui ensuite se continue vers la modernité. Et puis ensuite, en phase finale, vous avez cette merveilleuse jonction qui se fait dans le Shì Jiè Jiāng Lái de Zhe Xue, c'est-à-dire donc la philosophie à venir mondiale, la philosophie mondiale à venir. Donc, je voulais terminer la séance d'aujourd'hui justement sur ce schéma parfaitement symétrique, tellement satisfaisant pour l'esprit, mais pour vous montrer à quel point donc il y a cette revendication donc de la part des philosophes chinois modernes, justement d'une participation donc à la philosophie universelle. Merci de votre attention et attention de ne pas faire de mauvaises chutes en sortant d'ici. Merci.